Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Paloma Soria Brown, Ise Tsikar et Thibaut Affring. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la technique, Alex Dang.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
On les appelait hier les aïeux ou les anciens. Les personnes âgées, celles qui ont dépassé les 70 ans, représentent aujourd'hui un Français sur sept. Des hommes et des femmes qui ont été frappés de plein fouet par l'épidémie de Covid-19. Dans les EHPAD, ce sont plus de 10 000 personnes qui ont succombé au virus. Un drame qui nous interroge sur la place de nos aînés dans la société. Comment mieux prendre soin des personnes âgées ? C'est notre sujet aujourd'hui. Vous écoutez France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Qu'avons-nous fait de nos aînés ? Pour répondre à cette question, nous recevons aujourd'hui Serge Guérin, sociologue, spécialiste du vieillissement, et Blanche Lebihan, politiste, enseignante-chercheuse à l'École des hautes études en santé publique de Rennes. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Mes hommages.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et d'abord, j'aimerais vous faire entendre un texte de Simone de Beauvoir.
J'ai parlé jusqu'ici de la vieillesse comme si ce mot recouvrait une réalité bien définie. En vérité, quand il s'agit de notre espèce, il n'est pas facile de la cerner. C'est un phénomène biologique. L'organisme de l'homme âgé présente certaines singularités. Elle entraîne des conséquences psychologiques. Certaines conduites sont considérées à juste titre comme caractérisant le grand âge. Comme toutes les situations humaines, elle a une dimension existentielle. Elle modifie le rapport de l'individu au temps, donc son rapport au monde et à sa propre histoire. D'autre part, l'homme ne vit jamais à l'état de nature. Dans sa vieillesse comme à tout âge, son statut lui est imposé par la société à laquelle il appartient. La société assigne au vieillard sa place et son rôle en tenant compte de son idiosyncrasie individuelle, son impotence, son expérience. Réciproquement, l'individu est conditionné par l'attitude pratique et idéologique de la société à son égard. Il ne suffit donc pas de décrire d'une manière analytique les divers aspects de la vieillesse. Chacun réagit sur tous les autres et est affecté par eux. C'est dans le mouvement indéfini de cette circularité qu'il faut la saisir.
Extrait de La vieillesse, un essai de Simone de Beauvoir publié en 1970 et lu ici par Emmanuel Bienfait. Que vous inspire cette réflexion sur la difficulté à définir le grand âge, Serge Guérin ?
D'abord, Simone de Beauvoir avait une angoisse du vieillir assez forte, mais en même temps, elle a été une des premières à l'évoquer. Alors, elle parlait même dans un recueil de nouvelles dès la femme rompue, c'était déjà autour de 40 ans. Vous voyez, donc la problématique s'était posée très très tôt. Mais c'est vrai que quand elle dit, c'est finalement les autres qui vous décide vieille. Et donc là, il y avait quelque chose de finalement très fort qui reste une réalité aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quand on dit les plus de 65 ans ne pourront pas sortir de chez eux, c'est finalement l'extérieur qui vous assigne à tel ou tel âge et qui vous donne une identité par rapport à l'âge.
On a du mal à définir, mais aussi à nommer les personnes âgées. Blanche Lebihan, on a beaucoup de termes pour cela. On parle parfois de senior, d'aîné. Quel serait, selon vous, peut-être le terme à utiliser?
Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on entend l'extrait de Simone de Beauvoir et puis quand on réfléchit effectivement qui y a derrière, il y a une pluralité de figures, d'images qui surgissent. Il y a quoi? Il y a le vieillard misérable, le vieillard seul. Il y a du coup nos parents âgés en maison de retraite aujourd'hui. Vous voyez, donc aujourd'hui on a ces images-là. Il y a aussi le vieux sénile, le vieux fou, celui qui erre, celui qui est en errance. Et puis il y a votre grand-mère qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Donc là aussi, ça évoque beaucoup de choses. Et puis il n'y a pas seulement ces images négatives. Il y a aussi le vieux sage. Il y a celui qui a de l'expérience. Il y a celui qui sait. Il y a celui qui se pose, celui qui apprend, celui qui enseigne, celui qui transmet. Donc on voit bien que la vieillesse, elle est extrêmement multiple et que dans la façon dont on a de l'approcher, de la penser, il faut avoir une approche qui est plurielle. C'est un enjeu économique, c'est un enjeu politique, c'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu social, c'est un enjeu sociétal. Et finalement, s'intéresser à la question de la vieillesse, c'est s'intéresser à une pluralité de choses. Alors moi, je le dis très souvent à mes étudiants pour leur montrer à quel point c'est intéressant de travailler sur cette question-là, hein. S'intéresser à la vieillesse, c'est s'intéresser aux évolutions sociales, c'est s'intéresser à la famille, s'intéresser à la vieillesse, s'intéresser au genre, parce qu'on le sait, hein, le vieillissement, le grand âge, c'est aussi une histoire de femme. Donc on voit bien cette pluralité-là, et cette pluralité-là dans les approches, elle est vraiment essentielle.
On a des difficultés, Serge Guérin, à définir qui doit être considéré comme âgé. L'INSEE, par exemple, estime qu'on entre dans la catégorie des personnes âgées dès 65 ans, mais évidemment, il ne peut pas y avoir un palier aussi enfermant que celui-ci pour définir les personnes âgées.
Oui, c'est pour ça que c'est à la fois une question évidemment biologique, mais c'est d'abord une question sociale, c'est-à-dire à quel âge on me considère comme faisant partie du côté des vieux. Et derrière, c'est aussi, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être du côté des vieux? Est-ce que c'est discriminant? Est-ce que c'est pas bien? De fait, on vous disqualifie ou on vous déqualifie à partir du moment où vous avez passé telle ou telle barrière d'âge, sachant que ces barrières sont normatives. Alors, par exemple, dans l'entreprise, dès 45 ans, vous êtes considéré comme un senior et globalement, on va plus investir sur vous en termes de formation. Ou si jamais vous perdez votre boulot dans le privé, vous avez quasiment aucune chance de le retrouver. Et puis, dans d'autres domaines, eh bien, là, ce sera plutôt 65, 70, 75, même la question du grand âge, par exemple, est largement même au-delà de 75 ans. Donc on voit bien que tout ça, c'est à la fois du débat, à la fois du combat, et puis c'est surtout quel choix on a derrière et qu'est-ce qu'on fait de la fragilité. C'est-à-dire que finalement, on démonétise, on dévalorise le fait que des personnes pourraient être plus fragiles que d'autres. Et la fragilité est toujours vue alors comme quelque chose de négatif, comme un coût, comme une charge, comme quelque chose qui ferait descendre l'ensemble de la société. Et on ne voit jamais des formes de fragilité qui sont finalement aussi des formes de particularité, des formes de force nouvelle, des formes de qualification nouvelle, de qualité nouvelle. C'est toujours sur un aspect négatif et sur un aspect de perte. On perd quelque chose avec l'âge. Alors, on peut perdre ses cheveux, on peut perdre ses dents, on peut perdre de l'audition, on peut perdre de la vue, ainsi de suite. Mais on ne parle jamais de gagner de l'expérience, de gagner de l'expertise, de gagner de la sagesse, de gagner du recul par rapport à d'autres. Vous voyez, on est toujours dans la perte et jamais dans le gain. On est toujours dans le fait que ce serait vieillir, c'est une défaite.
Et ce sont ces représentations qui expliquent aussi, peut-être, Serge Guérin, ce phénomène d'invisibilisation dont souffrent les personnes âgées dans notre société. Une invisibilisation qui a été illustrée par le fait que les autorités ont mis plus d'une semaine à rendre public le nombre de décès en EHPAD, par exemple.
Alors, sur la période de la crise du Covid, c'est assez paradoxal, parce que d'un côté, la société s'est aussi arrêtée pour protéger les plus fragiles, qui étaient en grande partie les plus âgés, non pas parce qu'ils étaient plus âgés, mais simplement parce qu'avec l'âge, on peut avoir plusieurs maladies, et c'est ça qui est ce qu'on appelle les comorbidités, qui vous rendent extrêmement fragile face au Covid. Mais quelqu'un de 25 ans qui souffre d'un énorme diabète est plus fragile que quelqu'un de 75 ans qui est en forme, quoi. Mais voilà, en tout cas, globalement, c'était plutôt les plus âgés. Donc de ce point de vue-là, il y a plutôt quelque chose de solidaire, puisque finalement, on essaie de faire attention aux plus fragiles. Et puis en même temps, il y a une tentation aussi, à la fois de ne pas les voir, que ce soit pas une priorité. Par exemple, dans les maisons de retraite, la tentation, ça n'a pas été qu'une tentation. Il y a quand même des gendarmes, des policiers qui sont descendus dans les maisons de retraite pour aller chercher les masques et pour aller les mettre ailleurs, dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'on a quand même fait des choix en disant, bah, la priorité, c'est les hôpitaux, la priorité, c'est pas les plus âgés. Donc, il y a un peu ce paradoxe-là. Et puis, il y a eu cette notion aussi, un petit peu, oui, d'invisibilité. C'est-à-dire qu'on oublie. On oublie de compter les morts dans les EHPAD. On oublie encore plus de compter les gens qui sont à domicile et qu'on ne voit pas si peut-être ils sont aussi en train de disparaître. Et puis, on oublie aussi, parfois, simplement, de demander leur avis aux personnes concernées. Ça a été par exemple le débat après la déconfinition du 11 mai, de dire bah, les plus de 65 ans, les plus de 70 ans n'auraient pas le droit de sortir. C'est-à-dire que finalement, c'est où on victimise ou on infantilise. Il y a un petit peu ces deux tentations-là. Mais en même temps, on essaye aussi de protéger. Donc c'est aussi à prendre en nuance.
Mais en essayant de protéger, est-ce qu'on n'a pas largement isolé? Selon l'association Les Petits Frères des Pauvres, il y a 300 000 personnes en France qui n'ont aucun contact social. Cet isolement des personnes âgées a été aggravé par le confinement, Blanche Le Bihan.
Alors, cet isolement, il a été évidemment mis en exergue par la situation de crise et puis par le confinement, puisque on a eu un moment où on ne pouvait plus aller chez son proche âgé. Mais cet isolement, il existait avant. C'est-à-dire que cette situation-là, elle existait avant. Il y a de nombreux dispositifs qui ont été créés, hein, je pense au dispositif Mona Lisa, bien avant la crise du Covid, parce que on a des personnes qui sont en effet en situation d'isolement social ou relationnel, hein, que l'on mesure généralement au regard des contacts que la personne a, hein, la densité, la périodicité de ses contacts, et qui est à distinguer bien sûr de la solitude, hein, qui est l'état d'isolement social ou relationnel dans lequel se trouve une personne, les deux étant bien sûr liés. Et c'est vrai que au début, on avait un petit peu oublié que peut-être que les proches isolés, eh bien, ils préféraient avoir le Covid plutôt que de rester chez eux. Et moi, j'ai été frappée par les témoignages justement de personnes très âgées, hein, qui du coup étaient seules chez elles et qui disaient « Mais moi, je préfère avoir le Covid et mourir du Covid que de mourir de tristesse, que de mourir de chagrin. » Et d'ailleurs, dans les différentes possibilités de sortie, hein, on a vu cette fameuse raison impérative familiale, un motif impérieux avec toute l'ambiguïté de la définition de ce qui est impérieux ou pas. Et on voit bien que beaucoup de gens se sont dit, mais est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit? Moi, je vois dans mon voisinage, j'ai été très vigilante parce que forcément ça m'intéressait de voir un petit peu si les gens s'autorisaient à aller avec leur attestation sur l'honneur signé voir leurs proches qui habitaient 2-3 rues plus loin. Et au début, on s'autorise pas, et puis progressivement on s'autorise, bien sûr, tout en conservant un certain nombre de principes de prudence et de précaution, parce que la peur aussi de contaminer son proche, enfin voilà.
Bien sûr. Est-ce que cet isolement est encore plus grand chez les personnes âgées les plus pauvres, Serge Guérin ?
Oui, comme toujours, je dirais, la pauvreté est un facteur d'isolement en soi. Et comme on trouve chez les personnes âgées beaucoup de gens en difficulté économique très forte, encore plus des femmes d'ailleurs que des hommes, du coup, oui, c'est cet isolement-là, il se rajoute encore. Il y a un isolement de fait, parce que je vis seul, hein, on avait fait une étude avec Ipsos, où vous aviez 27% des plus 85 ans qui disaient qu'ils ne voyaient personne, quoi. Que globalement, ils avaient ce sentiment-là de manière extrêmement forte. Et avec le manque de moyens, avec aussi la difficulté d'accéder à des outils de communication standards, avec la difficulté simplement de parler à d'autres personnes, y compris parce qu'on a très très peu de moyens et qu'on n'ose pas. En plus, ce sont encore des générations de personnes qui ne se plaignent pas, qui disent « bah voilà, je ne vais pas le raconter aux autres, je ne veux pas le faire savoir, voire même je ne le dis pas à ma famille, je cache tout cela ». Donc tout ça renforce encore cet isolement. Et c'est vrai que c'est évidemment, pour le coup, les gens qui sont à domicile, qui sont le plus en risque d'isolement, parce qu'après tout, les gens qui sont accueillis dans des lieux type maison de retraite, résidence autonomie et autres, ils sont quand même dans des collectifs où du coup il y a quand même des gens aussi pour les accompagner, pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais il y a des gens qui sont dans une solitude totale, il y a des gens dont on n'a même pas le numéro de téléphone, on ne sait même pas comment les contacter, et parfois on ne sait même pas qu'ils sont là, quoi, qu'ils existent.
Nous demanderons aux personnes les plus vulnérables, aux personnes âgées, en situation de handicap sévère, aux personnes atteintes de maladies chroniques, de rester, même après le 11 mai, confiné, tout au moins dans un premier temps. Je sais que c'est une contrainte forte pour vous.
Jusqu'à maintenant, je pensais être une personne, je pensais être une femme, tout simplement. Mon âge, ça n'avait pas d'importance. Et puis maintenant, bah, j'ai l'impression que je suis une espèce de personne, mais. Je suis une personne, mais âgée. Je suis une personne, mais fragile. Je suis une personne, mais on doit me protéger. On n'a pas besoin qu'on nous dise ce qu'on doit faire. C'est encore pire que de l'infantilisation. Là, on est complètement chosifié.
On vient d'entendre Emmanuel Macron et le témoignage de Nicole, 71 ans. Le chef de l'État a voulu, dans un premier temps, prolonger le confinement des personnes âgées au-delà du 11 mai, ce qui a provoqué un tollé. En quoi était-ce une mauvaise idée, selon vous, Serge Guérin ?
C'était une mauvaise idée au sens déjà de faire des différences entre les personnes. J'avais dit sur un média en disant si on avait pris la couleur de peau, on aurait appelé ça de l'apartheid. Donc il y a quand même quelque chose d'assez violent par rapport à ça. Et puis le deuxième élément, c'est de pas prendre en compte que nous sommes des êtres sociaux et qu'on a besoin de ce lien. Et qu'il y a des personnes âgées, mais il y en a d'autres aussi, qui sont en train de crever de manque de lien. Donc le fait de leur dire, vous restez à quelque chose comme ça, de ce point de vue-là, qui est encore plus risqué d'une certaine manière. Puis le troisième élément, c'était de dire, voilà quoi. Comme disait Nicole, mais on est une personne et on peut avoir telle ou telle problématique de santé et autres. Mais c'est pas un mais, c'est et on a ça. Et c'est comme ça que ça nous définit. On a une diversité d'identité, dont celle-ci. Et là, du coup, on enfermait les gens uniquement sur cette notion-là. Et puis en considérant que, vous savez, c'est un petit côté, on va faire votre bien contre vous-même, quoi. Malgré vous, on sait ce qu'il faut pour vous. Mais les gens sont capables, à 75 ans, ils seraient pas tous sortis pour aller en boîte de nuit, par exemple. Les gens savent aussi qu'ils doivent faire un peu plus attention. C'est-à-dire que de prévenir, de faire attention, de dire attention, tout ça est dans la logique des choses. Mais là, on n'était plus dans quelque chose de protection et d'information, on était dans quelque chose d'infantilisation totale et de couper bien la société en deux. Et puis, il y avait aussi quelque chose quand même d'assez ridicule. C'est qu'on dit à des personnes de 65 ans et un jour, eh ben maintenant, vous ne devez pas sortir de chez vous. Et on était très content de voir ces gens de 65 ans et un jour, par exemple, des maires de nos communes, des élus élus de nos communes, des gens qui ont tenu les bureaux de vote, des gens qui sont allés voter. On est très content et on en a besoin dans le tissu associatif, dans le tissu local, et ainsi de suite, de ces personnes-là, parce que le gros des bénévoles du tissu associatif sont des gens qui ont largement dépassé 65 ans. Et donc, d'un côté, on est super content de les voir et on sait que sans eux, bah, le tissu associatif s'écroule. On sait que sans eux, une grande partie de l'activité civique s'écroule. Et puis, d'un seul coup, on vous dit, ah ben non, mais là, là, c'est pas pour vous. C'est pas votre temps, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et puis même, cette norme de dire, il y a un âge particulier. On pouvait même imaginer quelqu'un qui, je sais pas, si on prend 70 ans, qui avait 69 ans et qui était né, je sais pas, moi, le 15 mai. Et donc, pendant 3 jours ou 4 jours, il pouvait sortir. Et puis, à partir du 15 mai, il devait rentrer chez lui et se confiner. Vous voyez, donc, il y a un côté comme ça, brutal, normatif, qui nous a plutôt fait reculer sur les représentations de l'âge. L'âge, c'est pas le critère dominant.
Le gouvernement a finalement fait machine arrière et on a appelé à la responsabilité individuelle. Mais comme vous le disiez, Blanche Lebihan, l'inquiétude, c'était de voir les personnes âgées dépérir non du coronavirus, mais de l'absence de contacts sociaux. C'est ce qu'on appelle le syndrome de glissement.
En vous écoutant, je pensais à quelque chose, outre effectivement, comme vous le dites, mais c'est la question du libre choix en fait. Je prolonge en fait ce que disait Serge Guérin, parce que ce qui me paraît intéressant dans le discours de Macron et dans le témoignage après que vous avez passé, c'est le besoin des personnes d'avoir le libre choix, de pouvoir décider pour elles-mêmes. Et cette question du libre choix, elle est au cœur de toutes les politiques qui sont mises en place aujourd'hui, qui sont pensées en direction du grand âge. C'est-à-dire que c'est pas, une fois encore, la crise du Covid met en exergue quelque chose, mais cette question du libre choix et de l'articulation entre l'intervention publique, c'est-à-dire les pouvoirs publics doivent intervenir, doivent aider les personnes âgées en perte d'autonomie et leurs familles, parce qu'il y a des besoins, effectivement. Les familles disent qu'elles ont besoin d'aide. Et puis, d'un autre côté, intervenir jusqu'où? Parce qu'on rentre quand même dans la sphère privée. Donc, c'est pas évident d'intervenir dans la sphère privée, quelle est la légitimité des pouvoirs publics à intervenir. Et de l'autre côté, donc, à articuler avec l'intervention familiale, c'est-à-dire la présence de la famille et le libre choix de la personne. Et quand on travaille sur le grand âge, ce libre choix de la personne, cette capacité de la personne aidée, déjà qu'on appelle personne aidée, ce qui est assez stigmatisant aussi, de la personne aidée à décider pour elle-même, c'est quelque chose qui est au cœur et qui est au cœur de toutes les politiques qui sont en train d'être pensées, là, avec évidemment la crise, mais bien avant, le rapport Libault l'année dernière, la politique dépendante, c'est au cœur. Et vraiment, en écoutant Macron et le témoignage, j'ai trouvé ça flagrant, en fait, comme association.
Il y a eu une prise de conscience de la part des autorités, peut-être de l'importance de ces contacts sociaux pour les personnes âgées, puisque les visites dans les EHPAD ont été à nouveau autorisées à partir du 20 avril, mais c'était peut-être une décision un peu tardive, Serge Guérin ?
C'est complexe là aussi, parce que d'un côté, il y a cette notion de protection qu'on peut évidemment bien comprendre. Donc l'idée de confiner plus tôt, et dans un certain nombre d'établissements, on a confiné plus tôt, finalement, on a aussi souvent mieux protégé les personnes, mais pas toujours, parce qu'il suffisait qu'un professionnel arrive et participe, par exemple, à un rassemblement religieux, et puis bing, il le redonne à tout le monde. Donc tout ça est très très complexe. C'est comment on arrive à organiser le fait qu'on maintient ce lien social d'une manière ou d'une autre, alors en utilisant parfois des technologies, en utilisant parfois des systèmes d'hygiaphone et ainsi de suite, et en même temps, on protège la personne, mais aussi les autres. Et puis, en effet, comment les gens, on leur demande eux-mêmes leur avis. Alors, dans l'espace des maisons de retraite, évidemment, c'est complexe, parce que 80% des personnes qui sont accueillies en maison de retraite ont les troubles cognitifs. Donc, ça pose aussi des problèmes de choix, de libre arbitre, et ainsi de suite. Mais, en même temps, on peut aussi faire en sorte de voir ce que ces personnes-là attendent. Et ça a été quand même un des grands enjeux de la période. Nous, on l'a d'ailleurs construit avec les états généraux de la séniorisation. C'est en disant, il faut aussi que les personnes elles-mêmes, que les acteurs du secteur, que les aînés, que les gens âgés, que les gens qui ont monté des associations, et ainsi de suite, puissent aussi donner leur parole, dire ce dont elles ont besoin, mais aussi ce dont elles ont envie, et leur droit au choix. Et dans ce droit au choix, il y a aussi le droit de prendre des risques. Après tout, de dire, mais moi, je préfère prendre un risque, mais plutôt que rester enfermé chez moi, et ainsi de suite. C'est comment on trouve cet équilibre qui est évidemment malhabile, complexe, évolutif, entre la nécessaire protection et la nécessaire liberté. Et à un moment donné, si je suis trop, entre guillemets, protégé, finalement, je me sens plus du tout libre, et je me sens autre. Je me sens plus de pouvoir décider. Et finalement, c'est quoi être âgé? C'est d'un seul coup me retirer, en fin de compte, ma carte d'identité, me retirer ma citoyenneté. Or, ce qu'on voit bien, en fait, dans une étude il y a quelques temps avec la Fondation Gorian, on a remarqué que pour la notion du chez-soi, par exemple, c'était le plus important pour les gens, c'était de dire, c'est pas la photo des enfants, c'est pas des choses comme ça, c'est avoir les papiers d'identité. Parce que ça veut dire que je reste un citoyen, c'est-à-dire que je participe de la communauté nationale. Et bien, c'est ça aussi qui était en jeu, c'est y compris en prenant des risques, j'ai envie de participer de la société telle qu'elle est, et encore plus sur les sujets qui me concernent très très directement.
Je le disais en introduction, l'épidémie de coronavirus a tué plus de 10 000 personnes dans les EHPAD. Dans ces établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, la prise en charge s'est parfois révélée défaillante. Écoutez le témoignage de Gabriel Weisser, il habite dans le Haut-Rhin, et sa mère a été contaminée par le Covid-19 dans un EHPAD.
C'était le 15 avril 2020, donc l'EHPAD dans laquelle était accueillie ma maman, le médecin de garde m'a appelé, il était 10h30, je sortais à peine du lit d'ailleurs, et la terrible nouvelle est tombée, alors que je ne m'y attendais pas, parce que ma maman était confinée et bien protégée dans cette maison de retraite, elle venait d'être contaminée par le virus du Covid-19. Les propos de ce médecin étaient imparables, elle avait donc une fièvre, une toux persistante et des difficultés respiratoires, donc symptômes de ce Covid-19. Donc je peux vous dire que lorsque cette nouvelle m'est arrivée, alors que la semaine précédente, ma maman donc était bien portante, même si elle était fragile liée à son âge, je suis vraiment tombé de ma chaise. J'ai demandé au médecin qu'est-ce qui était prévu comme soins et il m'a dit qu'il y aurait des soins uniquement palliatifs. Pas de soins curatifs, pas d'antiviraux, pas d'antibiotiques, rien. Juste un accompagnement vers la mort.
La crise sanitaire a mis en lumière les faiblesses de certains établissements, Blanche Lebihan.
Alors quand vous dites certains établissements, je pense que la crise sanitaire a mis en exergue les problèmes au sein des établissements. C'est évident que le problème de recrutement du personnel, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de personnel insuffisant, avec une volonté toujours de rationaliser les coûts, de contenir les coûts, et puis des personnels soignants qui sont amenés finalement à prodiguer des soins dans des conditions de travail qui sont difficiles, avec un laps de temps très réduit pour chaque résident. Et ça existait avant la crise. Donc on peut bien imaginer que avec la crise et les besoins bien sûr croissants des résidents dans l'accompagnement, avec le fait que les aidants, les familles n'étaient plus présentes au sein des EHPAD, eh bien forcément la crise a mis ça en avant. Mais quand vous dites certains établissements, je pense que ce qu'il faut avoir en tête et ce qu'on va là commencer à investiguer, moi je suis associée à des projets de recherche comparatifs d'ailleurs en Europe sur cette question-là, et c'est d'essayer de voir si sur l'ensemble du territoire les problèmes se sont posés de la même façon. Parce que pour avoir commencé à investiguer sur mon territoire à moi en Bretagne, on se rend compte que dans certains établissements, l'équipe a pu faire face. Et puis dans d'autres établissements, en effet, les équipes n'ont absolument pu faire face. Donc là, il y a une hétérogénéité des possibilités d'action et d'accompagnement des résidents qui ont souffert de la crise sanitaire.
Pour bien comprendre, il faut dire qu'en France, 50% de ces établissements qui accueillent des personnes âgées sont publics, 30% s'inscrivent dans l'économie sociale et solidaire et 20% sont des entreprises privées lucratives. C'est à peu près cela le paysage, Serge Guérin ?
Oui, à peu près. Enfin, la partie publique diminue très régulièrement. Le privé a arrivé tout simplement parce que l'État n'a pas voulu mettre de moyens et donc il est allé chercher d'autres personnes qui donc sont arrivées en disant « bah ok, ça s'est quand même passé très très concrètement comme ça ». Et donc progressivement, la part du privé qui reste très très minoritaire, prend l'importance. Mais c'est vrai que ce qu'on a vécu, alors moi je dirige un master à l'INSEE qui forme des directeurs des établissements de santé, donc ils vont dans le privé lucratif ou dans le privé non lucratif principalement. Mais ce que je vois très souvent, c'est que c'est la qualité du manager justement, ou de la manageuse qui joue et qui est le plus important. Il y a des personnes qui savent aussi.
C'est ça qui explique que certaines structures ont réussi à mieux faire face que d'autres ?
Oui, alors il y a eu plein de raisons. D'abord, il y a eu quand même une réalité. C'est que la priorité a été donnée aux hôpitaux et qu'encore une fois, quand il y avait des masques dans un certain nombre d'EHPAD, on est allé les prendre. Il y a quand même des directeurs d'établissement qui cachaient les masques dans leur voiture pour pas qu'elles soient récupérées par les gendarmes. Oui, on est quand même arrivé à des choses, mais incroyables, quoi. Et moi, j'avais en ligne des personnes, mais en pleurs, me racontant ces trucs-là. Donc, c'était quand même ça, la première réalité. C'était aussi que quand vous avez une personne qui est atteinte du Covid dans un EHPAD, vous appelez l'hôpital et l'hôpital vous dit, je le prends pas. Non, gardez-le, parce que nous, la priorité, c'est d'autres personnes. Ça a été quand même ça, d'abord. D'abord, il y a aussi la faute à pas de chance. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a un salarié qui était porteur, qui ne le savait pas, et qui l'a repassé à d'autres. Qu'il y a eu au début encore les familles qui voulaient venir, et qui parfois l'ont passé, vous voyez. Enfin, il y a eu tous ces éléments-là. Et puis, il y a eu aussi la difficulté, dans certains cas, de s'organiser. La difficulté de saisir les choses et de pouvoir agir en temps, en heure. Il y a eu la difficulté aussi avec un personnel qui est souvent insuffisant, qui est parfois aussi pas suffisamment bien formé, et puis qui, dans certains cas, bah, beaucoup de ces personnes n'étaient plus là, par exemple, ou parce qu'elles avaient été touchées, ou parce qu'elles avaient peur d'être touchées, ou parce que, par exemple, ce sont beaucoup de femmes, et parfois des femmes seules qui élèvent leurs enfants, et en se disant, mais moi, il faut que je m'occupe de mes enfants. Oui, enfin, il y a eu plein de dysfonctionnements, et finalement, la crise du Covid a été aussi une sorte de crise morale, en disant, mais voilà aussi les effets d'années et d'années de ne pas vouloir agir sur la question du grand âge, sur la question de l'accompagnement du vieillissement et sur ce que nous on appelle la séniorisation de la société.
Sur cette question très sensible du tri des patients, en effet, faute de place, les services d'urgence ont refusé d'hospitaliser nombre de résidents d'EHPAD et puis plus largement des patients de plus de 70 ou 75 ans. Est-ce que selon vous, Blanche Le Bihan, certains décès auraient pu être évités?
Alors ça, c'est vraiment une question extrêmement compliquée. J'avoue que j'aurais vraiment pas aimé être face à les choix-là. Et puis, c'est difficile de dire est-ce que certains décès auraient pu être évités. Je pense que ça dépendait vraiment des contextes dans chacun des établissements. Ce qui est vrai, c'est que les médecins aussi, avaient médecins généralistes, ont reçu un certain nombre de consignes pour apprendre s'ils n'avaient pas été formés à l'accompagnement en soins palliatifs. Donc, c'est vraiment, comme le dit Serge Guérin, toute une démarche qui a été de donner la priorité à d'autres, de manière indirect, ça c'est certain. Mais alors, est-ce que ça aurait pu être évité? Il y a tout un tas d'éléments qui expliquent que dans tel ou tel ou tel établissement, ça n'a pas marché. Il va falloir faire les tris. Mais dans ce que disait Serge Guérin, ce qui est très important, je pense, c'est que c'est pas dû à cette distinction entre public, privé ou secteur mixte. C'est vraiment d'autres choses qui interviennent pour expliquer pourquoi ça a fonctionné ou pas et qui s'ancrent dans un passif sur la nécessité de réformer, de financer l'accompagnement en institution et de réformer complètement ce secteur de l'accompagnement des personnes âgées.
Et justement, sur le financement, ce qui interpelle, c'est que les groupes privés sont financés à 50% par les pouvoirs publics. Est-ce que l'excellente rentabilité de ces établissements repose sur l'argent du contribuable, Serge Guérin ? Ou est-ce que c'est un raccourci ?
Oui, c'est un raccourci au sens où il y a une partie qui est financée, mais comme pour les établissements publics, par le public. C'est la partie du soin, ainsi de suite. Puis il y a la partie de l'hébergement qui est financée autrement, y compris d'ailleurs par les personnes elles-mêmes, avec aussi tout un système d'aide selon leurs revenus, et ainsi de suite. Après, ce qu'on peut voir, c'est que ça dépend tellement des formes d'organisation, de mobilisation des personnes, ainsi de suite, que c'est pour moi souvent beaucoup plus des questions d'être humain qu'autre chose. Et puis après, il y a en effet des formes d'organisation qui valorisent, qui soutiennent, par exemple, l'autonomie des décisions ou qui, au contraire, ont un cadre normatif beaucoup plus important. Et donc, tout ça fait que ça dépend énormément de toutes ces situations-là. Il n'y a pas un élément qui permet d'expliciter les choses. Parce que vous pouvez être dans du privé non lucratif et avoir des démarches, des modes de fonctionnement qui peuvent être aussi délétères, par exemple. Vous pouvez avoir un système public où il y a eu, par exemple, après Lyon, il y a eu 55 morts d'un coup, quoi. Le Covid ne demande pas les papiers ni du personnel, ni des personnes âgées qui sont touchées, quoi. C'est-à-dire que ça dépend d'une variété de facteurs qui sont incroyablement énormes, diverses. Mais ce qu'il y a derrière, quand même, public, privé, associatif, tout ce qu'on voudra, ce qu'il y a quand même derrière, c'est dans quel environnement on est. Et on est dans un environnement depuis plus de 30 ans, parce que la première demande, par exemple, d'un cinquième risque, la première demande d'un financement important de l'accompagnement du grand âge, c'est le rapport de Pierre Larocque de 1962. Et depuis 1962, les décisions structurantes, finalement, n'ont pas été prises. Donc, vous voyez, donc ça remonte à loin, quoi. Donc ça fait 58 ans que on n'a pas pris les décisions politiques, on n'a pas eu de vision politique de la société de la longévité, de la société des âges, de la séniorisation de la société. Et finalement, c'est ça que les personnes âgées, les professionnels du secteur, et je voudrais dire les professionnels puisque ce sont 85% des femmes, payent en premier.
Mais cela fait déjà un certain temps que beaucoup pointent du doigt la différence entre le coût d'un établissement pour personnes âgées autour de 2 000 euros par mois et la réalité des soins qui sont apportés. On a vu plusieurs reportages diffusés sur des personnes âgées qui pouvaient être proches de la maltraitance, tant effectivement le personnel manque. C'était l'une des raisons avancées. Mais comment expliquer que ces sociétés privées soient si rentables et en même temps que, très simplement, le prix à payer pour les résidents soit si élevé ? Blanche Le Bihan.
Je suis pas sûre que ça concerne uniquement en fait le privé, hein. Comme on disait tout à l'heure, il me semble que les problèmes de recrutement concernent l'ensemble des établissements. Alors après, sur la rentabilité en elle-même, c'est vrai que du côté du public, il n'y a pas de recherche de rentabilité, mais juste faire en sorte que les choses fonctionnent. Mais ça va être le coût en fait à charge pour la personne qui va augmenter lorsqu'on est pris en charge dans un établissement privé. Les coûts, ce qu'on appelle le coût d'hébergement, hein, parce que c'est vrai que il y a plusieurs pôles, hein, de financement. financement. Il y a la dépendance en elle-même qui est couverte par le volet sécurité sociale, médicale, santé. Il y a l'hébergement et puis il y a la perte d'autonomie hein, qui va être en partie couverte par les pouvoirs publics et en partie par les familles. Et la part hébergement, bien sûr, elle varie beaucoup d'un établissement à l'autre. Et c'est cette part de l'hébergement qui est à la charge des familles. Alors les plus démunis ont accès à l'aide sociale à l'hébergement, mais les autres n'ont pas accès à cette aide sociale à l'hébergement. Et le coût est très important, hein, puisque on évalue autour de 1 800 € le reste à charge pour les familles d'un accueil en établissement. Donc c'est ce reste à charge-là, d'ailleurs, qui pose un certain nombre de problèmes aux familles et de difficultés pour faire face et puis avoir son proche en établissement.
Serge Guérin, j'essayais de comprendre le secteur des EHPAD privés est particulièrement rentable. Entre 2015 et 2016, le groupe Orpea, par exemple, a vu son bénéfice net augmenter de près de 70%. Cette rentabilité, elle a de quoi choquer peut-être quand on voit que pour beaucoup de familles, le coût d'un résident en EHPAD est particulièrement élevé.
Oui, alors c'est vrai quand on regarde les chiffres comme ça, mais attention, enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte parce que le coût du public est aussi énorme parce que le public, il est payé aussi tout simplement avec nos impôts. Donc c'est il s'agit pas de enfin, je trouve que c'est logique d'essayer d'opposer, elle fonctionne pas parce que les conditions sont pas les mêmes, les modes d'organisation peuvent être différents, mais les coûts globaux pour la collectivité, c'est finalement ça qui compte à la fin. Qu'est-ce qui revient à la collectivité et quels sont les choix que nous faisons pour mettre de l'argent sur ce secteur-là? Alors, on parle des maisons de retraite, mais on a raison hein, c'est à peu près 700 000 personnes, mais c'est sur l'ensemble des personnes comment on organise les choses pour qu'il y ait, par des systèmes assurantiels, par des systèmes type cinquième risque de sécurité sociale, pour mettre l'argent qu'il faut, en sachant que cet argent, c'est pas un argent qui est perdu, c'est un argent par exemple qui va dans l'emploi, c'est un argent qui va dans l'aménagement du territoire, c'est un argent qui va dans la prévention, qui va dans l'amélioration de la qualité de vie des personnes. C'est cet ensemble-là qu'il faut voir, et comment on fait en effet pour réduire les inégalités entre les personnes qui ont des revenus trop faibles pour se payer cet accueil, et puis ceux qui ont les moyens de le faire. Et comment on organise tout cela? Alors pour les plus pauvres, comme très souvent, il y a des systèmes d'aide qui permettent l'aide sociale et qui permettent à ces personnes-là de trouver des places, mais c'est souvent pour les classes moyennes où la situation est la plus difficile parce que leur revenu de la retraite est parfois très inférieur au coût que cela représente d'être accueilli en maison de retraite. Mais attention, quand on parle du coût en maison de retraite, on met tout. On met l'hébergement ou on met la nourriture. Mais dans tous les cas, les gens sont hébergés et les gens se nourrissent. Donc il faut voir quelle est la partie du soin par rapport à tout le reste. Et c'est là aussi, et comment c'est financé, et qu'est-ce que ça représente ce soin. En plus, ce soin, il pose aussi d'autres questions, parce que la grande majorité des personnes qui sont accueillies en maison de retraite sont des personnes qui ont besoin d'être accompagnées en termes de qualité de vie. Quand vous êtes touché par des maladies neurologiques, d'une certaine manière, vous êtes en bonne santé. Simplement, vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'être stimulé, vous avez besoin d'être en lien avec d'autres personnes. C'est autre chose que des gens qui sont touchés par des maladies incapacitantes, où là, ils ont des problématiques. Ils ont besoin d'une notion de soins en termes de santé beaucoup plus forte. Donc c'est tout ça qu'il faut arriver à prendre en compte, avec aussi une logique d'accompagnement, avec une logique de prévention, et j'irais d'abord avec une logique de bienveillance et de désir d'accompagner et de rendre visibles aussi les plus âgés.
Pour en finir sur la responsabilité des maisons de retraite dans le bilan humain très lourd du coronavirus, le groupe Korian a été pointé du doigt. Plusieurs familles ont porté plainte contre certains EHPAD pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui ou non-assistance à personne en danger. Des poursuites qui ont en général des difficultés à aboutir, Blanche Lebihan, si on se fie aux poursuites précédentes qu'on a déjà pu observer.
Forcément, je pense que c'est complètement naturel. Hein. Moi, je serais dans ce cas-là, je ferais des démarches pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans les établissements. Mais là, je pense qu'on est vraiment dans une période de flou. Hein. Faut quand même avoir en tête que le chiffrage du nombre de morts en EHPAD n'est pas encore clair. On ne sait pas encore. Alors, vous y faisiez référence tout à l'heure. On a des chiffres qui sortent, mais en parallèle, on a des enquêtes qui sont menées dans les EHPAD. Je sais que au niveau de la Bretagne, par exemple, pour faire le tour et essayer de voir précisément combien de morts sont imputables au Covid ou non. On peut avoir des situations avec une personne qui va. Il se trouve que j'ai pu rencontrer un cas dans les personnes que je peux être amenée à suivre, de personnes qui peuvent avoir eu le Covid, hein, les personnes âgées, donc qui ont été mises dans des services spécifiques, isolés, pris en charge, accompagnés, mis en relation avec leurs proches par l'intermédiaire de tout ce qui est numérique, etc. Et qui s'en sont sortis et qui ont été réintégrés en fait dans les services où ils étaient jusque-là et qui du coup sont pas forcément très en forme et se laissent un peu aller. Donc qu'est-ce qui est lié au Covid, qu'est-ce qui n'est pas lié au Covid? Le chiffrage, il est compliqué. Hein. Quels sont les critères exacts? À partir de quand, puisque au départ il n'y avait pas de test, à partir de quand on peut imputer au Covid? Je pense que là, sur la question des chiffres, comme toujours, hein, il faut savoir ce qu'il y a derrière les chiffres. Bon, pour moi, c'est un préliminaire avant toute chose. Mais les démarches des familles, évidemment, c'est l'envie de comprendre déjà.
Face au vieillissement de la population, comment repenser aujourd'hui la prise en charge des personnes âgées? On en parle dans un court instant.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Et ceux d'avoir trop ri, que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier. Et d'avoir trop pleuré, que des larmes encore leur perlent aux paupières. Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends. Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, la muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de raide, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide. Et le temps d'un sanglot, oublier toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent par la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère. Cela n'importe pas, celui des deux qui reste se retrouve en enfer.
Les vieux de Jacques Brel par Dom La Nena. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, et nous sommes toujours en compagnie de Serge Guérin et de Blanche Lebihan pour parler de la place des personnes âgées dans la société. Avec le vieillissement de la population, le nombre de personnes dépendantes ne cesse d'augmenter en France. Elle pourrait être 4 millions en 2050 selon l'INSEE. Et cela alors qu'aujourd'hui, ceux qu'on appelle les aidants, qui s'occupent d'une personne malade ou handicapée, sont déjà au bord de l'épuisement, Blanche Lebihan.
Alors oui, je pense que quand on s'interroge sur la question du grand âge et des politiques et des dispositifs à mettre en place, on peut pas s'interroger que sur les services à mettre en place pour prendre soin des personnes âgées. Il faut aussi s'interroger sur les aidants. Et c'est vrai que les aidants sont vraiment le pivot de l'organisation de l'aide, le pivot de l'accompagnement des proches en perte d'autonomie et finalement le pivot aussi des politiques qui se développent et qui se mettent en place. C'est-à-dire que l'intervention familiale, elle est articulée articuler avec l'intervention publique. Il ne s'agit pas d'un côté de développer pour les pouvoirs publics des dispositifs qui vont se substituer à l'intervention familiale, mais d'articuler les deux. Et l'intervention familiale, elle est extrêmement présente. On est dans une configuration où la priorité est donnée au maintien à domicile, et le maintien à domicile au grand âge, il n'est possible que si les aidants sont là. Donc c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, depuis les années 2000, se développer des politiques dites d'aide aux aidants, c'est-à-dire avec ce souci de soutenir les aidants dans leur investissement auprès de leurs proches.
On va en parler, mais je voudrais d'abord qu'on entende le témoignage de Gilbert qui s'occupe de sa femme Bertille.
Je suis devenu proche aidant pour éviter à mon épouse d'aller dans un institut spécialisé vu son AVC.
Un, deux, trois. Ouais, je t'aide presque pas, hein. C'est toi qui fais tout le travail. Vas-y, respire bien. C'est un travail qui s'arrête jamais, qui est jour et nuit. Quand tu veux t'asseoir, tu m'avertis, hein. Parce qu'il faut s'imaginer qu'on n'a jamais d'arrêt.
Ça fait du bien,
jamais.
Hein, se mettre debout.
C'est pas la semaine de 5 jours ou de 6 jours. Moi, ça fait 10 ans que j'ai pas pris un seul jour d'arrêt. 10 ans. Alors imaginez-vous ce que c'est. Mais toujours avec plaisir. Toujours avec... Quand elle me sourit ou qu'elle me dit merci, moi, ça, je repars pour... je sais pas pour combien de temps.
Un témoignage recueilli par la RTS. Quel est le profil des aidants en France, Blanche Lebihan?
Alors, le profil des aidants, il y a une diversité d'aidants. Hein. Les aidants, c'est à la fois un conjoint. Les aidants, c'est aussi un enfant. Là, en l'occurrence, c'était un conjoint. Les aidants, bah, c'est en majorité des femmes, hein, puisque les dernières enquêtes nous disent que 59% des aidants sont des femmes. Ce qui veut dire qu'on a quand même une part d'hommes non négligeable. Les aidants, donc, sont confrontés à des problématiques assez différentes. On en a qui sont confrontés à la problématique de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. C'est 52 ans l'âge moyen des enfants qui s'occupent de leurs proches âgés, quand on est encore au cœur de son activité professionnelle, et on a à s'occuper également de ses proches âgés.
Et on ne mesure pas toujours l'étendue des tâches quotidiennes réalisées par les aidants, Blanche Lebihan?
Alors ça, c'est vrai qu'on a une diversité des tâches, et je pense que c'est un point essentiel. Une diversité des tâches, puisque il y a les tâches instrumentales, on a des tâches vraiment concrètes, c'est-à-dire s'occuper de son proche, c'est au quotidien, être là pour le lever, pour l'habiller, préparer son repas, lui parler, échanger, donc toutes ces tâches de la vie quotidienne qui sont assumées par les aidants, mais c'est pas uniquement ces tâches-là. C'est-à-dire que on a aussi une multiplicité de tâches qui sont relatives à ce qu'on appelle la coordination de l'aide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cadre du maintien à domicile, on peut déléguer une partie des tâches à des tiers, à des professionnels, ce qui est bien sûr une très bonne chose et qui soulage les aidants. Mais ce qui conduit et ce qui entraîne le développement d'une autre forme de tâche pour les aidants, c'est l'orchestration de l'aide qui se met en place autour de la personne âgée. C'est-à-dire que qui c'est qui contacte les services d'aide à domicile? C'est l'aidant. Qui c'est qui va à l'hôpital pour faire une visite avec son proche? C'est l'aidant. Qui c'est qui assure le lien avec le médecin traitant? C'est l'aidant. Et puis qui c'est qui est au travail? Et puis tout d'un coup, son téléphone sonne. Et là, vous avez un coup de téléphone des services d'aide à domicile qui vous disent « Je suis désolée, l'aide à domicile, elle est devant la porte et votre mère, elle veut pas ouvrir la porte. » Et ben forcément, elle veut pas ouvrir la porte parce qu'il se trouve que c'est Chantal, l'aide à domicile, qui est présente ce jour-là et que votre mère, malheureusement, elle aime pas Chantal, elle préfère Jacqueline ou Monique. Donc elle va pas ouvrir la porte et vous êtes en pleine réunion et vous avez ce coup de fil des services d'aide à domicile. Donc là aussi, c'est les aidants. Donc toute cette activité d'organisation, d'orchestration de l'aide autour de la personne âgée, c'est une charge qui est lourde, qui peut être lourde, c'est une activité qui peut être lourde. Ça renvoie à ce qu'on appelle aussi, et qui est revenu progressivement, cette idée de charge mentale, c'est-à-dire le petit vélo qu'on a dans la tête, et on n'arrête pas de penser, est-ce que ma mère a bien coupé le gaz? Est-ce que j'ai bien fait ceci ce matin? Et puis ce soir, il faut que je repasse chez elle. Donc on a ces tâches de coordination. Et ces tâches de coordination, elles conduisent à ce qu'on peut être aidant, parce qu'on vit à côté de chez sa mère, mais très important, on peut être aidant en vivant à 500 km de chez sa mère. Et on peut être un aidant intensif, parce qu'on a beau être à 500 km, on organise, on gère tout cela.
Je vais descendre en ville.
Pour aller traîner, vous êtes toujours prête. Mais par contre, pour nettoyer le lustre, c'est une autre affaire.
Mais non, j'ai sûrement oublié les paupiètes ce matin chez le boucher. Impossible de mettre la main dessus.
Encore des paupiètes?
C'est pour ton goûteux, les paupiètes. Et puis je prendrai du talacan chez le pharmacien. Vous n'en avez plus. Faudra passer à la banque aussi, je vais être juste.
Non.
Quoi, non?
J'irai pas à la banque.
Là, vous recommencez à être méchante. Si vous me faisiez cette procuration, vous ne seriez pas toujours obligé de vous déplacer.
Vous avez peut-être reconnu, Tati Daniel, le film d'Étienne Chatiliez avec Tilla Shelton dans le rôle titre. Tati Daniel, c'est cette abominable vieille dame qui torture sa gouvernante dévouée. Alors c'est évidemment un exemple extrême que permet la fiction. Mais tout de même, plus sérieusement, Blanche Lebihan, le quotidien des aidants peut être assez éprouvant psychologiquement?
Le quotidien d'un aidant, c'est une relation d'aide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser le quotidien indépendamment de toute une autre dimension qui est la dimension relationnelle et donc émotionnelle de l'aide. C'est-à-dire qu'on est en lien avec son proche. Et ce lien avec le proche qu'on établit parce qu'il est très âgé et qu'il a besoin d'aide, parce que c'est mon conjoint, parce que c'est ma mère, parce que c'est mon père, eh bien, il n'est pas figé à un moment de dépendance. Il s'inscrit dans une relation, dans une histoire familiale. Et les liens que l'on peut avoir avec sa mère, au moment où elle est dépendante, eh bien, font suite à le relationnel avec la mère, mais ou de manière plus large, l'histoire familiale. Et donc cette dimension relationnelle de l'aide, hein, avec l'inscription dans l'histoire familiale, cette dimension relationnelle de l'aide, c'est aussi le relationnel avec l'ensemble des aidants professionnels qui interviennent. Cette dimension relationnelle, c'est aussi les liens avec les frères et sœurs, hein, puisque là on a l'impression qu'il y a un aidant. Mais l'arrangement d'aide, c'est une configuration d'aide. Comme je disais tout à l'heure, c'est une sorte d'orchestre, d'orchestration de l'aide. Et la configuration d'aide, elle associe des professionnels, de l'aide à domicile, des soins médicaux, et elle associe des membres de la famille. Et il n'y a jamais un aidant principal. C'est très abstrait, en fait, cette idée d'un aidant principal. Il y a l'articulation de l'intervention de l'ensemble des membres de la fratrie qui peuvent faire telle ou telle chose. Mais quand vous dites ingrat, je pense qu'on a tendance à oublier parfois la dimension positive de l'aide. C'est-à-dire que cette relation d'aide qui s'installe, elle peut être positive. Et j'étais frappée tout à l'heure dans par le témoignage du monsieur que vous avez diffusé, justement. On sentait que quelque part, ben, il était heureux de faire ça aussi, d'être là et de l'aider. Donc il y a des gratifications, il y a des satisfactions, parce que ça s'inscrit aussi dans une histoire avec la personne. Et il faut, bien sûr, accompagner les aidants, avoir conscience que c'est difficile, que c'est épuisant. Mais il faut aussi avoir conscience que l'aidant, il peut y avoir des effets positifs à accompagner son proche, que ce soit son conjoint ou que ce soit sa mère ou son père.
Comment soulager les aidants? La question préoccupe de plus en plus les pouvoirs publics. Depuis quelques années, la loi sur la dépendance adoptée en 2015 a notamment été une première étape, Serge Guérin, avec l'introduction de ce droit de répit.
Oui, alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Je dirais que, par exemple, là, dans les états généraux, un des éléments qui est revenu le plus en avant, c'était des gens qui disaient qu'il faudrait que les services à la personne puissent fédérer l'ensemble des acteurs, histoire qu'on ait un seul contact et pas 10 personnes à joindre à chaque fois. Vous voyez, il y a aussi plein de choses pour faciliter la vie des personnes. Puis, il faut rappeler, alors, les professionnels ne sont pas des aidants. C'est leur métier. Les aidants, c'est des gens qui le font à titre bénévole, souvent. Alors, peut-être, ils s'y retrouvent parfois, mais enfin, généralement, ils l'ont pas choisi et personne n'a rêvé dans sa vie d'être aidant. Donc, faut faire attention aussi à pas trop magnifier non plus ces choses. Et puis rappeler que si les gens sont aidants, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de professionnels pour les accompagner. C'est quand même ça la réalité première. Et qu'il y a des choses qu'on peut faire pour aider, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas de l'ordre. Je sais pas, vous êtes un père, vous avez un enfant handicapé, c'est pas à vous de faire la toilette. Vous êtes une femme, vous êtes mariée avec votre compagnon depuis 60 ans, c'est pas à vous de faire la toilette. Vous voyez, il y a quand même des choses qu'on se retrouve obligé de faire simplement parce qu'il n'y a pas la structure suffisante, parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes pour le faire, parce qu'il n'y a pas suffisamment de professionnels. Donc là, il y a vraiment un enjeu, mais énorme. Et derrière cet enjeu, il y a en effet les questions aussi de comment on accompagne les aidants, comment on les visibilise aussi, parce que pendant très longtemps, jusqu'en 2010, on n'en parlait jamais. Et puis, il y a eu tout un mouvement pour qu'il y ait une journée nationale des aidants, pour qu'il y ait un certain nombre de choses qui se font. Il y a l'Association française des aidants. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui se sont faites. Et dans la loi de 2015, pour la première fois, on évoquait les aidants. Et on parlait, par exemple, d'un droit au répit. Alors, pour m'amuser, j'avais dit un jour à Michel Delaunay, qui était la ministre à l'époque, il faut que vous soyez la Léon Blum des aidants, c'est-à-dire les congés payés pour les aidants. Parce que finalement, on oublie que ces personnes-là sont 24-24 et qu'à certains moments, elles ont besoin de respirer et que parfois, elles finissent par être plus en fragilité que la personne qu'elles ont aidée. Donc, ce droit au répit qui est mais vraiment insuffisant, qui ne suffit pas, en tout cas, a été une première pierre, mais l'enjeu, dans une grande perspective d'une société de tous les âges, âge qu'accompagnerait le grand âge, c'est un, qu'il y ait suffisamment de personnel pour permettre aux aidants de souffler, et que deux, il y a un accompagnement de ces personnes en termes de valorisation, en termes de moments pour respirer, en termes d'aide pratique, en termes de valorisation de leur activité. Parce que par exemple, si vous êtes un aidant en activité, et c'est à peu près la moitié des aidants, hein, c'est aussi de dire ce que vous avez appris comme aidant, ça peut être intéressant à valoriser en termes de VAE par exemple, pour une suite professionnelle. Vous voyez, il y a plein de choses à faire.
Vous parliez de congés payés, Serge Guérin, mais il y a aussi la question de la rémunération des aidants. Est-ce qu'il faut les rémunérer? La question fait débat, certains estimant que attribuer un acte affectif risque finalement de le dévoyer.
Oui, c'est vrai que, comme disait Oscar Wilde, hein, le cynisme, c'est connaître le prix de tout et la valeur de rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas de prix. Aider un enfant, il n'y a pas de prix. Aider un parent, il n'y a pas de prix. Mais il y a un coût. Mais il y a une difficulté. Mais il y a une fatigue. Donc, est-ce qu'il faut qu'il y ait une forme de statut des aidants pour, par exemple, qu'ils soient, je sais pas moi, fiscalement mieux aidés? Que dans certains cas, certainement qu'on puisse peut-être, en particulier dans les ménages, dans les catégories les plus fragiles et les plus populaires, qu'il y ait un moyen aussi peut-être de contribuer aussi au financement. Ce qui existe déjà d'ailleurs.
Il faut aller plus loin que l'allocation personnalisée d'autonomie qui a été mise en place en 2003.
Oui, c'est-à-dire que c'est la question aidant-aider. C'est-à-dire que finalement, quand on aide, alors avec la loi de 2015, ça avait commencé à être un petit peu intégré. C'est-à-dire que l'APA, cette allocation personnalisée autonomie, une partie peut aller vers les aidants. Et donc, c'est sans doute de mieux créer ce lien entre les deux. Et encore une fois, c'est au décideur, au plus près de la personne, de se dire, mais dans ce cas-là, il faut que j'accompagne aussi la personne qui aide, parce que parfois elle va être un peu obligée peut-être d'arrêter de travailler, ce qui n'est pas du tout son désir, mais donc il faut l'accompagner à ce niveau-là. Donc il commence à y avoir, la CNSA réfléchit, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un système pour que la rémunération des gens quand ils arrêtent de travailler pour accompagner un proche, il faut qu'elle soit suffisamment importante pour pas mettre les gens en plus dans une difficulté économique. Et puis c'est aussi comment on fait courir les droits sociaux. Par exemple, si une personne arrête de travailler pour s'occuper d'un proche, encore faut-il que ses droits à la retraite se poursuivent. Par exemple, vous voyez, il y a toute une série de choses comme ça à mettre en place, mais qui sont coûteuses.
Qui sont coûteuses, nous dites-vous, effectivement, comment financer la dépendance à l'heure où la crise sanitaire a creusé de façon spectaculaire le déficit de la sécurité sociale? Le gouvernement réfléchit à créer une cinquième branche dédiée à la dépendance au sein de la sécurité sociale, à côté de l'assurance maladie, de l'assurance vieillesse, de la famille et des accidents du travail. Une branche qui serait financée par une fraction de la CSG, la contribution sociale généralisée. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet, Blanche Le Bihan?
Je pense qu'il n'est pas nouveau, puisque quand on déplie et quand on déroule l'histoire de la politique dépendance ou perte d'autonomie, hein, pour on dit de plus en plus perte d'autonomie en France, on se rend compte que les premiers débats sur la création d'un risque dépendance, c'est les années 60, les années 70, le rapport Larocque, on a le rapport Arex en 79 qui préconise également la création d'une cinquième branche de sécurité sociale. Donc c'est quelque chose qui est sur le tapis, si je puis dire, depuis un certain nombre d'années, et puis qui revient régulièrement, hein, parce que vous parliez de l'allocation personnalisée d'autonomie, donc qui a été créée et réformant un système déjà préexistant depuis des années 2000-2002. Mais il faut bien voir que cette prestation, l'allocation personnalisée d'autonomie, c'était un choix de création d'une prestation financée par notamment les impôts locaux au niveau des conseils départementaux, puisque c'est les conseils départementaux qui, en majorité, financent l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc il y a eu des choix financiers très lourds qui ont été effectués, et on n'a pas fait le choix de la dépendance, d'une assurance dépendance à ce moment-là. Alors que l'Allemagne, par exemple, hein, au milieu des années 90, c'est-à-dire au moment où nous, on se pose aussi ces questions de comment faire pour mettre en place un dispositif qui puisse couvrir le besoin des familles hors couverture santé, puisque ça ne suffit plus, et les Allemands, eux, ont opté pour une assurance dépendance, qui n'est pas le choix que nous, on a fait. Mais ça revient régulièrement. C'est revenu au début des années 2000. C'est revenu aussi pendant la période où Nicolas Sarkozy était président de la République, où on reparlait encore du cinquième risque, et ça revient aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant dans le rapport Libault, donc qui préconise la création de ce cinquième risque, c'est qu'il y a derrière un plan de financement qui est annoncé, comme vous le dites, avec la capacité à dégager 10 milliards d'euros pour financer cette cinquième branche.
Ça va dans le bon sens, même si ça n'est peut-être pas suffisant?
Ça va toujours dans le bon sens à partir du moment où vous dégagez des sommes importantes pour développer pour les politiques en direction des personnes âgées en perte d'autonomie, oui, bien sûr.
La crise sanitaire a mis en lumière les failles de l'adaptation de notre société au vieillissement. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui, Serge Guérin, pour redonner justement aux personnes âgées toute leur place dans la société?
C'était justement le principe des états généraux de la séniorisation, c'était dans l'idée, on ne peut pas penser une loi à grand âge sans demander aux gens du grand âge et à ceux qui travaillent dans le secteur leurs idées, leurs représentations, leurs images, leur imaginaire, leurs besoins. Et par exemple, quand on a fait cette consultation citoyenne pendant la crise du Covid, ce qui arrivait en premier à plus de 98%, c'était la question de l'éthique. Les gens disaient, mais il faut que dans tous les lieux d'accueil des plus âgés, il y ait des systèmes d'éthique pour prendre en compte la situation, pour prendre en compte comment les gens sont pris en soin, ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est cette demande très très forte à la fois de parole, d'être écouté et qu'il y ait cette dimension d'éthique. C'est aussi toute la question de, on invente plein de choses pour les plus âgés, et au lieu de faire pour les plus âgés, c'est de faire avec les personnes et de vérifier avec les personnes que ça correspond réellement à leurs besoins, que ça correspond réellement à leurs usages. Hein, c'est la question, par exemple, que les gens puissent tester un nouveau système avant qu'il soit systématisé. Parce que sinon, on s'aperçoit que parfois il ne fonctionne pas et que même on dépense trop. Voilà. Et donc, c'est l'idée aussi de parole citoyenne. Par exemple, nous, on organise des systèmes de Zoom citoyen. En ce moment, le système Zoom est plus simple que les réunions en vrai. Et donc, là, par exemple, on en fait le 30 mai avec des gens âgés qui viennent discuter avec des élus pour dire voilà ce qu'ils attendent, voilà ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire que les personnes, là encore, on a commencé l'émission sur la question de l'infantilisation. Bon, on l'a fini aussi là-dessus. C'est-à-dire que les gens âgés sont des citoyens et ont leur mot à dire. Et je pense qu'on ne réussira une loi grand âge. Il y a bien sûr des questions économiques, il ne s'agit absolument pas de minorer. Et tout ce qui va dans ce sens-là est évidemment extrêmement intéressant. Mais on ne réussira pas des lois grand âge. On ne réussira pas une vision de la société du grand âge si on n'implique pas les personnes elles-mêmes.
Il nous reste très peu de temps, mais suffisamment tout de même pour écouter un extrait du Bel Âge de Laurent Perrault, sorti sur les écrans en 2009, un film qui raconte la relation entre Maurice Reverdy, joué par Michel Piccoli, qui vient de nous quitter, et sa petite fille de 18 ans. Dans cet extrait, le vieil homme rencontre un ancien ami lors d'un enterrement.
Et parlez-moi un peu de vous. Comment va votre fille ?
Elle est morte il y a quelques années. Enfin, tu ne voyais plus.
Ah, je ne savais pas. Quel malheur.
Mais j'ai une petite fille. Elle s'appelle Claire. Elle n'a pas de père, elle est avec moi. Un fort tempérament. Elle portait crachet de sa mère. Sa jeunesse me réjouit. Ils sont très complices.
Ah, c'est formidable. Quel âge elle a ?
18 ans.
Le bel âge. Elle est au lycée.
Ah, mais elle va avoir son bachot. Oui. Surtout, c'est une championne de natation. Très talentueuse. Voilà.
Moi, j'ai 5 petits-enfants. Ah. Et quand ils viennent me voir, je les emmène sur le plateau. Et je leur raconte comment... On vivait là-haut, les combats, tout ça. Vous savez, ils vous connaissent. Je leur ai bien souvent parlé de vous.
Les pauvres.
C'est le dernier, je dois fermer, messieurs.
Ah non, mademoiselle, ah, vous pouvez pas nous faire ça. Asseyez-vous, on vous offre un verre.
Merci, mais je dois fermer.
Le regretté Michel Piccoli dans l'un de ses tout derniers films, Le Bel Âge, le regard sur le grand âge changera à condition de retisser des liens solides entre les générations, Serge Guérin.
Je crois que s'il y a quelque chose qui fonctionne très bien, on l'avait fait avec Pierre-Henri Tavoyau il y a quelques années, un livre sur la guerre des générations aura-t-elle lieu, pour montrer que s'il y a quelque chose qui tient le coup, c'est bien les liens intergénérationnels. Et on a pu remarquer dans la période que nous vivons, hein, il y aurait pu avoir une tentation en disant « Ah bah c'est les plus vieux, ils nous coûtent cher, c'est à cause d'eux qu'on arrête l'économie ». Et finalement, ça a été très très peu présent. On a vu beaucoup de jeunes, par exemple, aller donner un coup de main, ce que j'appelle les solidarités minuscules. C'est « J'ai ma voisine, je lui demande si elle a besoin que j'aille lui faire les courses ». C'est dans les plein de villes où s'est organisé des systèmes de solidarité, entre autres avec les plus âgés. Où souvent on s'est dit « Mais les plus âgés, c'est souvent eux qui étaient dans les associations ». Et là, on voit qu'ils sont plus avec nous parce qu'ils ont besoin de se protéger, ainsi de suite, voyez. Donc il y a eu plutôt, je crois, une très belle énergie autour de l'intergénération, et je crois qu'il faut absolument s'en souvenir, parce que là aussi on ne créera pas une société de demain, une société du care, une société de la bienveillance sans cette dimension intergénérationnelle, avec cette notion de réciprocité. C'est-à-dire que j'apprends des plus âgés, mais j'apprends aussi aux plus âgés. Par exemple, sur toutes les nouvelles technologies, mais il y a d'autres éléments. Et sans doute qu'on n'a jamais eu cette réciprocité entre les générations comme on les a aujourd'hui.
Cette émission s'achève avec le nouveau titre d'Aniel Katib, Peace. Merci beaucoup Serge Guérin et Blanche Lebihan d'avoir été avec nous depuis vos domiciles respectifs. Merci également aux équipes techniques de Radio France qui nous permettent de réaliser ces entretiens à distance. Serge Guérin, je renvoie les auditeurs à votre ouvrage très instructif, Silver Génération, 10 idées reçues à combattre à propos des seniors, paru chez Michalon.
Demain, on parlera du casse-tête du télétravail avec Anne Salle et François Dupuis. Mais d'abord, dans un instant, vous retrouverez la Compagnie des œuvres avec Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonne journée à tous à l'écoute de France Culture.